9h15, 10h. La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.
Il est 9h15 en direct de Dieu Radio. Bonjour tout le monde, essayiste, autrice. Elle publie en mars dernier aux éditions J.C. Lattès son dernier livre intitulé « Rue du Passage ». Co-fondatrice de l'organisation politique Front de Mer, féministe, engagée dans l'antiracisme et l'écologie. Après deux essais politiques, c'est son premier roman littéraire. Bonjour Fatima Wasak.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va, et vous ?
Très bien. Vous êtes née dans la région du Rif, au Maroc, dans cette maison que vous avez partagée en vidéo il n'y a pas si longtemps. Cette maison typique totalement ouverte en son centre. Donc avant qu'on parle de votre premier roman littéraire qui déambule dans l'histoire de la classe ouvrière immigrée des années 80, le départ, c'est cette maison de la commune de Dar al-Kabdani.
Oui, c'est ça. Oui, une maison d'ailleurs dont je parle dans le roman, pour parler de cette génération de femmes qui ont quitté leur terre, qui ont même été arrachées à leur terre, et en fait qui quittent un lieu comme ça, ouvert sur le monde, où on voit le soleil se lever, le soleil se coucher, et qui débarquent dans les cités HLM. Donc effectivement, pour ce qui me concerne, ça a vraiment commencé là, parce que je suis née dans cette maison. Et voilà, et très très vite, à 10-11 mois, je suis arrivée en région lilloise, ouais, avec mes parents.
Rue du Passage, c'est le récit d'un enfant, donc l'enfant, comme vous l'écrivez dans les premières lignes. Et cet enfant, c'est une fille, Salima. Et c'est à travers sa perception, son regard et sa recherche d'un ange gardien que défilent dans le récit ces métiers dont on ne parle pas. Le passeur de cassettes, la doseuse d'épices ou encore la cafetanière. Le ton est joyeux, c'est une fiction tout de même imprégnée, inspirée de votre vécu, comme les trois cheminées de l'usine qui sont alors de vrais souvenirs.
Oui, alors c'est inspiré effectivement de mon vécu. Il se trouve d'ailleurs que Salima, c'est le prénom de ma petite sœur, de ma sœur en fait, de ma petite sœur chérie. Donc il y a évidemment des choses qui sont pas fictives, qui sont réelles. Ces personnages ont vraiment existé, les personnages dont je parle. Mais c'est aussi inspiré de mon militantisme politique aussi, des idées qui ont pu traverser aussi mes essais politiques, La puissance des mers et Pour une écologie pirate. Donc voilà, c'est un peu de ma vie, c'est vrai, de notre vie, généralisée à la vie des quartiers populaires, mais c'est aussi des idées que j'ai voulu faire passer, alors sans les gros sabots idéologiques du militantisme qu'on peut trouver dans mes essais politiques. Mais oui, il y a cette soif de liberté, il y a la volonté de ne pas être emmuré, il y a tout ça aussi qui est dans le roman, ouais.
Justement, il commence comment ce projet d'écriture, donc parce que le style d'écriture est différent de l'écriture d'un essai politique à un roman littéraire, donc qui fait intervenir aussi la fiction, mais évidemment injecté de faits, d'idées, voilà, bien réelles. Ça commence comment cette envie d'écrire cette fiction ?
Alors moi, j'ai toujours écrit. Des choses très très différentes, des choses très institutionnelles, des choses très romancées, très poétiques. Il y a déjà du récit littéraire dans mes essais politiques. D'ailleurs, pour une écologie pirate, à la fin, il y a carrément un conte en fait qui dit l'essai, mais à hauteur d'enfant. Alors, le choix en fait du récit littéraire est arrivé après. Un drame en 2020, la mort dans un foyer Sonacotra d'un vieil homme. Et j'ai voulu rendre hommage à ce vieil homme à travers juste un petit texte, en fait, où il y a du coup ce récit, en fait. Et je publie sur mon blog sur le site Mediapart, hommage donc à cet homme. Et c'est en écrivant l'hommage à ce vieil homme qui décède, que je me rends compte que ce vieil homme n'a pas de travail, en fait. Son travail, en tout cas, n'est pas qualifié. Il faut que je cherche. Et je l'appelle le passeur de cassettes. Voilà. C'est l'histoire de cet homme qui prend des cassettes dont les immigrés ont détourné l'usage. Les cassettes, on écoute de la musique, mais les immigrés dans ces années-là l'utilisaient aussi, la cassette, pour s'enregistrer, pour donner des nouvelles au pays. Et au pays, on faisait de même, on enregistrait. Et donc, le passeur de cassettes était chargé d'une rive à l'autre de passer ses cassettes, quoi. D'où son nom. Et c'est en écrivant cet hommage qu'a bien marché. En fait, il y a plein de gens qui m'ont répondu en me disant, mais on avait même oublié en fait ce que faisaient ces hommes à l'époque. Et, parce que voilà, ce passeur de cassettes, il a existé dans tous les quartiers populaires de France et même d'Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne. C'est vraiment quelqu'un d'important dans la communauté africaine, nord-africaine, subsaharienne. Vraiment, c'est quelqu'un qui existe, qui est assez universel. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de raconter l'histoire d'autres personnes, en me disant, mais il y a aussi la couturière, là, du dernier étage. Elle aussi, elle avait un métier particulier. C'était pas juste une couturière. Elle faisait des caftans. C'était magnifique. C'était du luxe. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis passée par le... Donc, il n'y a pas vraiment cette réflexion formelle au départ. Il y a d'abord l'envie de raconter une histoire et un hommage, en fait, vouloir transmettre déjà à mes propres enfants. Et ensuite, il y a un prolongement pour de raconter tout le quartier et pas simplement l'histoire du passeur de cassettes.
Et est-ce que vous êtes intéressé après, justement, à quand a pu apparaître le premier passeur de cassettes? Ou est-ce qu'on a des informations sur ces métiers?
Oui, en écrivant, j'ai fait mes petites recherches pour chaque personnage, en fait. Oui, c'est vraiment les années 70. C'est au moment où vraiment se généralise la cassette audio et le magnétocassette, parce qu'il ne fallait pas juste les cassettes, il fallait aussi un magnétocassette et ce n'était pas rien à l'époque pour des immigrés qui font partie de la classe ouvrière. Et alors c'est intéressant de voir comment ça a pu apparaître et émerger. Et c'est aussi intéressant et assez triste, en fait, de voir comment ce métier a disparu. En fait, il a disparu non pas à partir du moment où apparaissent les téléphones ici en Europe, mais plutôt à partir du moment où apparaît le téléphone dans les grandes postes dans les pays d'origine. C'est à ce moment-là qu'en fait, les gens ont moins besoin d'utiliser la cassette parce qu'ils peuvent tout simplement s'appeler. Puis alors, et ça, c'est plutôt les années 90, fin des années 80 et début des années 90. Alors, en sachant qu'en parallèle de la cassette, il y avait aussi les lettres, mais alors pour relativement peu de personnes, parce qu'il y avait relativement peu de personnes à l'époque qui écrivaient, en fait, qui savaient écrire en français ou en arabe ou en anglais ou autre. Et donc, voilà, donc c'est assez triste de voir que du progrès technologique, en fait, fait disparaître ce métier. Et ce métier, à partir du moment où, d'ailleurs, il n'a pas été qualifié, il fait même disparaître ce progrès technologique de nos mémoires, en fait. On ne se souvient pas et des cassettes et du passeur de cassettes.
Oui, puis il y a ce truc-là qui est assez beau aussi dans le livre, c'est qu'on choisit qui va donner la nouvelle ou qui va annoncer la nouvelle.
Ouais.
Et c'était, voilà.
Oui, c'est la petite, la petite Salima, parce que c'est ça aussi, hein, c'est raconter aussi les aventures en fait, d'une petite fille. Je n'ai pas du tout voulu faire un essai sociologique. Alors, les métiers de l'immigration, alors d'abord le passeur de cassettes, ensuite... Non, ce n'est pas du tout ça, le ton, c'est vraiment un personnage de petite fille. Bon, on me demande parfois si c'est moi la petite fille. Et c'est... En fait, franchement, non. C'est vraiment, j'ai voulu décrire l'enfant qu'on aimerait être, en fait. Qu'on aimerait tous être un enfant assez universel, c'est-à-dire vraiment curieux. J'ai l'impression que pyromane, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qu'on pourrait tous raconter. En fait, moi, c'est vrai que j'aimais. Moi, mes parents me passaient leur temps, ma mère passait son temps à me courir derrière parce que j'expérimentais. Et donc, je mettais le feu un peu partout. Mais je crois qu'il y a chez elle, en fait, oui, cette curiosité, la volonté d'expérimenter, de tester qui est assez universelle. Et vous l'avez dit pour commencer, c'est Rue du Passage, c'est l'histoire d'une petite fille qui cherche quelque chose, en fait. C'est l'histoire d'une... Oui, c'est une quête, c'est une curiosité. Et donc, il y a des petites aventures assez, assez marrantes.
Oui, donc justement, Salima, c'est une fille, donc la plus petite avant le dernier, l'avant-dernière, et elle est vraiment espiègle, elle a une énergie absolue. C'est ça aussi qu'on ressent, c'est l'énergie d'un enfant, enfin d'une enfant, que c'est celle des enfants qui veulent tout faire et surtout pas ce qu'on leur dit de ne pas faire. Et elle est curieuse et tout de même dotée d'une résilience qui l'amène toujours à rebondir lorsqu'elle est confrontée et à la désillusion et à la déception.
Oui, alors pour ça, là où elle est située dans la fratrie, c'est la deuxième, mais c'est la deuxième, elle a deux petits frères jumeaux.
Voilà, c'est
ensuite
ça,
arrive encore un bébé et encore un enfant, mais tout plus loin dans l'histoire. Mais alors, c'est intéressant.
C'est la deuxième
à sa place.
Fille, elle a une grande sœur.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, pour l'avoir expérimenté, je sais l'importance de cette place parce que, alors, on n'est pas suffisamment âgé pour être obligé de prendre les petits frères avec soi quand on sort, en fait. Mais en même temps, on est encore trop petite, parce qu'il y a quand même l'aînée, trop petite pour... on est suffisamment grande, pardon, pour sortir quand même, aller vadrouiller dehors, quoi. Donc elle a une place assez intéressante quand même dans la fratrie. Et oui, il y a chez elle, en fait, et dans ce qui lui arrive, pour moi, en fait, il y a une sorte de film qui se rejoue, en fait, parce que, alors, je le disais tout à l'heure, il y a ce passeur de cassettes qui décède, et lui, vraiment dans la réalité, il meurt dans l'indifférence générale. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que c'est dans l'indifférence générale de la société française. Et ça, on sait, hein, les travailleurs ouvriers, vieux, des foyers sonacotra, donc des foyers où vivaient ces travailleurs immigrés plutôt célibataires, ou alors qui ont eu leur famille restée au pays. Alors eux, ils sont vraiment morts dans l'indifférence générale de la société française. Mais voilà, ce qui est dur, c'est qu'ils sont aussi morts dans l'indifférence de leur communauté, de la communauté immigrée et de la communauté ouvrière. Et alors Salima, il y a quelque chose d'important dans le livre, c'est qu'elle rend hommage, en fait. C'est-à-dire que l'hommage qui n'a pas été rendu, et moi qui m'a vraiment attristée, presque déprimée, comme je vous disais, en 2020, en fait, elle s'en occupe. C'est une petite fille qui s'en occupe, en fait. Donc c'est comme si, en fait, la communauté immigrée dont je suis, en fait, revenait en arrière, c'est une sorte de retour vers le futur, pour dire, mais ouais, on n'a pas assez honoré, en fait, et célébré ce que nous sommes. Et tous ces gens qui ont été tellement précieux pour la communauté, bah Salima va s'en charger. Et donc, d'une certaine manière, elle s'en charge dans le livre. Bon, je ne dis pas comment, mais oui, il y a ça chez elle.
Et puis, il y a cette mélancolie aussi, cette culpabilité. J'ai l'impression qu'on ressent davantage à travers les personnages de femmes, donc la mère et de Salima et Salima. Ce sont des sentiments puissants, la mélancolie et la culpabilité, les pires à mon sens. Et j'ai l'impression que sont imprégnés de ça, d'abord les corps de ceux qui ont été déracinés.
Oui, alors qui ont été déracinés, ça c'est une chose importante, c'est tout ce qu'on connaît de l'exil. Moi, ce que j'ai voulu montrer aussi, en plus, on va dire, dans ce récit de l'immigration et ce récit de l'exil, c'est aussi le rapport à l'espace qui change. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Allez, j'emploie les grands mots dans une perspective féministe, de voir comment... Et c'est pour ça qu'il y a cette mélancolie, effectivement, plutôt chez les personnages féminins, et précisément chez la mère de Salima. C'est de voir, en fait, de raconter comment des personnes qui ont quitté la maison ouverte sur le ciel, dont on parlait tout à l'heure, donc qui ont quitté des espaces ouverts, où on peut circuler relativement librement, en tout cas où on respire un air intéressant, assez pur, l'air de la montagne du Rif, précisément pour ce qui concerne ma famille. Et comment ces femmes-là qui gambadent, en fait, qui courent, qui marchent, qui vont loin, comment ces personnes-là se retrouvent vraiment enfermées dans des HLM très très étroits. Et enfermé, c'est-à-dire qu'il ne voit quasiment plus vraiment la lumière du jour. Et ça, c'est triste, en fait, de se dire qu'en fait, ce vécu-là, donc ce passage d'une libre circulation et cette vie dans les montagnes, ce passage de ça à un enfermement quasi total parce que le dehors, l'extérieur, est complètement hostile. Hostile parce que, bon, évidemment, le racisme, ça, on connaît le racisme des années 80, mais hostile aussi parce que la langue, enfin, on ne parle pas la langue, hostile parce qu'on est dans des quartiers où les espaces sont encore plus genrés que l'espace dans le pays d'origine. Et donc, vraiment, voilà, le dehors est hostile, quoi. Et on doit s'occuper des enfants. Et c'est un travail qui n'est pas reconnu, qui est encore moins reconnu que dans le pays d'origine, où le rôle des mères est quand même relativement reconnu. Il y a une forme de puissance qu'on reconnaît chez les mères, ce qui n'est pas du tout le cas dans les sociétés occidentales que peut être comme la société française, quoi, où là, la mère, c'est une mère au foyer et elle ne fait rien, elle ne travaille pas.
Mais voilà. Elle a même oublié d'ailleurs qu'elle pouvait ressentir des choses.
Absolument.
Et elle le dit, quoi. Et elle ne sait pas comment faire pour... que aussi elle ne soit pas d'une certaine manière jugée par la communauté.
Complètement. Oh ouais. C'est ça, c'est tout le... voilà, comment on fait pour exister dehors et comment on fait pour éviter le contrôle social, effectivement, le contrôle communautaire. Hein, moi, j'en parle dans le livre aussi, même s'il s'agit dans mon livre de célébrer la communauté. Mais je dis aussi que peuvent être les travers de la communauté. Et donc, voilà, moi, je voulais effectivement donner à voir ce vécu, ce sentiment d'étouffement, en fait. Et donc là, il y a effectivement une forme de mélancolie. Mais aussi, oui, de dire comment ces femmes ont pu quand même... ont eu des stratégies pour s'échapper. Bon, elle, c'est marrant, elle invente des histoires. Et puis, elle s'invente même, d'ailleurs, une histoire pour se permettre, en fait, de courir et de vivre et d'être libre.
Mais qui fait partie de la culpabilité, parce que sans ça, on ne s'invente pas. Enfin, on n'essaie pas de se justifier avant même qu'on nous demande une justification.
Mais bon, à un moment donné, elle l'envoie paître la culpabilité. Ouais. Hein. Donc, c'est aussi marrant. C'est pour ça que voilà, j'essaie de ne pas enfermer les personnages dans leur mélancolie ou dans leur mal-être, etc. Il y a quand même à chaque fois des personnages qui s'en sortent. Hein. C'est tout l'objet du livre de Rue du Passage, c'est ça. C'est des personnages qui ont comme ça des stratégies individuelles ou collectives pour respirer, quoi, pour s'en sortir et permettre à leurs enfants aussi de s'émanciper.
C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la plupart des chapitres du livre, on a souvent le sourire à la lecture, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que l'énergie est positive, malgré justement un environnement hostile.
Oui, parce que... Oui, alors là, pour le coup, il y a une volonté de ma part, vraiment dans l'écriture, dans le récit littéraire, de casser un petit peu les codes du récit de l'immigration, qui... Alors moi, je suis lectrice des récits de l'immigration. J'en ai lu beaucoup. Et je trouve qu'ils sont souvent empreints de ce côté vraiment tragique, en fait. Alors... que j'y retrouve des éléments, politiques positifs ou négatifs. C'est-à-dire que même dans le positif, même quand il s'agit, par exemple, de dénoncer alors, le racisme, l'islamophobie, la ghettoisation, etc., il y a quelque chose qui ne me plaît pas, en fait, à la lecture, c'est ce côté vraiment gris, en fait, terne. Alors, même quand il s'agit de parler des années 80, qui sont des années qu'on décrit souvent, quand on ne parle pas de l'immigration, comme des années pop, en fait, c'est vraiment Madonna, quoi. C'est vraiment les couleurs, les chouchous fluo dans les cheveux. C'est vraiment, il y a toute cette couleur-là, et c'est... Alors, joie dans la projection, dans l'espoir, ça ne veut pas dire que c'était joyeux, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, les années 80, c'est horrible. C'est vraiment des années de crimes racistes, de crimes policiers, c'est... Mais dans le récit, les années 80, c'est plutôt, voilà, on y croit en fait. Sauf pour l'immigration, où là, vraiment, c'est, j'ai dit, c'est gris, quoi. Et moi, je voulais autre chose, en fait. Je voulais vraiment que, oui, effectivement, qu'on puisse sourire à la lecture de ces histoires. Parce qu'il y a eu ça aussi, en fait. Et que c'est un travail dans l'écriture de dire, mais en fait, j'ai le choix entre raconter quelque chose de définitivement triste ou raconter quelque chose de définitivement joyeux, parce qu'il s'agit aussi de transmettre de la joie à nos enfants, à tous nos enfants d'ailleurs, qu'ils soient descendants de l'immigration ou pas, et d'y croire. Voilà, un peu comme les années 80, pour dire, voilà, aujourd'hui, on est en 2024, dans quelle mesure aussi on peut se dire que la solidarité, en fait, dans le livre « L'organisation communautaire », la solidarité peut nous émanciper, peut nous donner envie d'y croire, peut nous faire rire aussi, peut nous lier d'amitié. Il y a vraiment quelque chose là de la manière de raconter quelque chose et qu'est-ce qu'on raconte, en fait. Oh, oui.
Vous voulez lire un extrait du passage?
Alors, l'extrait... Alors, je commence un nouveau chapitre, et alors je voulais dédier cette lecture à la mère au poignet, mais vous allez voir que le début, en fait, parce que je ne vais pas tout lire, le début, en fait, ça parle, on parle plutôt du rapport de la petite fille à son père. Mais alors avant de le lire, juste dire qu'en fait, c'est intéressant de voir comment la petite, en fait, elle-même, elle a des stratégies comme ça pour essayer de s'en sortir, et que c'est pas simple du point de vue de l'enfant. De s'en sortir dans des injonctions qui peuvent paraître contradictoires entre sa famille, ses parents et l'école et l'institution scolaire. Je me lance. La mère au poignet. 7 septembre 1984. Aujourd'hui est un jour important. Salima porte de beaux vêtements neufs et près de la porte l'attendent de belles chaussures neuves et un beau cartable neuf. Elle fait sa rentrée à la grande école. Dans la cuisine, pendant qu'elle déjeune, son père s'assoit face à elle pour une discussion sérieuse, la discussion de rentrée scolaire. Il lui rappelle qu'elle doit bien travailler à l'école, qu'elle doit bien se tenir en classe, mais surtout qu'elle ne doit jamais se laisser faire. Si on la tape, elle tape. Si on la pousse, elle pousse. Si on la mord, elle mord jusqu'au sang. Même si c'est un plus grand, c'est la règle, pas d'exception. Salima doit répéter après son père. Si on la tape, elle tape. Si on la pousse, elle pousse. Si on la mord, elle mord. Jusqu'au sang, insiste le père. Jusqu'au sang, doit compléter Salima. Salima connaît la réponse, mais elle tente. À l'école, les maîtresses exigent qu'on ne se défende pas soi-même et qu'on aille les voir en cas de problème. Le père lui confirme qu'elle doit en effet aller voir la maîtresse, mais seulement après avoir tapé, poussé et mordu jusqu'au sang. Est-ce bien clair pour elle ? Salima a envie de hausser les épaules. Son père fait semblant de ne pas comprendre que cette règle, qu'il lui demande de respecter, est contradictoire avec les règles de l'école. Et que c'est d'autant plus ingérable qu'il attend d'elle, justement, qu'elle respecte les règles de l'école. Mais elle hoche la tête. L'heure n'est pas à la polémique. Elle se débrouillera avec tout ça, comme elle s'est toujours débrouillée.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là de la mère au poignet. Salima, c'est une fille, mais il y a aussi des garçons dans la famille. La place de la femme, en tout cas celle qu'on lui a donnée, a des codes. J'y pense puisque en nous écrivant avant l'émission, vous avez cité l'avocate et militante franco-tunisienne Gisèle Halimi. J'ai lu ce jour où Gisèle Halimi a annoncé à sa mère qu'elle avait ses règles. Et à ce moment-là, la totalité de ses relations avec les hommes devait cesser, selon sa mère et les conventions. Dans une interview publiée par le journal Le Monde en 2019, elle dit « Je me demande parfois ce que je serais devenue sans elle ». Donc elle parle de sa professeure de français. Mais j'aurais forcément fait quelque chose car j'avais en moi, comment vous dire, une force mauvaise, une force sauvage, une rage, faut pas qu'on m'empêche, je veux apprendre, je dois me sauver. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça aussi dans le personnage de Salima, quelque chose d'être de la liberté.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous racontez de Gisèle Halimi, ce qu'elle raconte elle-même. Parce que alors là, pour le coup, alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour évidemment les combats menés par Gisèle Halimi. Voilà, moi je considère que ce sont des combats qui sont visionnaires dans ce qu'on connaît aujourd'hui de l'intersectionnalité, par exemple. Voilà, une femme qui s'est battue et contre le sexisme et contre la culture du viol et contre les viols massifs, les viols de guerre en Algérie, et contre le colonialisme et le racisme et la hiérarchisation raciale. Et elle a réussi à combiner ça, en fait. Et moi, j'ai découvert, en fait, la possibilité de lutter et contre le racisme et contre le sexisme en lisant et en écoutant Gisèle Halimi, vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma construction politique. Maintenant, ce que vous racontez de Gisèle Halimi, le fait qu'elle, dans ce passage, elle décrit, en fait, le fait d'avoir été sauvée par sa prof de français, contre un peu sa communauté oppressante. Ça, c'est, j'avoue, quelque chose que je voulais casser aussi. En fait, quand je disais, je voulais tordre le cou à un récit de l'immigration assez classique. Je voulais, et qui participe pour moi du roman national, je voulais tordre le cou à cette idée ces communautés racisées, d'exilés, d'immigrés, de réfugiés, des communautés non blanches, nous sommes sauvés toujours de l'extérieur et toujours par des blancs, et toujours par des profs ou des assistantes sociales, etc. Ça, je voulais vraiment le...
Mais ça, c'est d'ailleurs ce que vous dites à travers la phrase des lions et des chasseurs.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Alors, parce que moi, à un moment donné, vraiment, en écoutant les personnes, parfois même qui viennent de l'immigration, qui viennent de ces communautés et qui racontent à quel point elles ont été étouffées par leur communauté, d'une manière ou d'une autre, ça peut être le père, la mère, la famille, la religion aussi, la religion musulmane souvent, à quel point elles ont été étouffées. Gisèle Halimi, c'est la religion juive, mais en contexte tunisien, en contexte... Parce que Gisèle Halimi, c'est une colonisée. Hein. Et de les entendre dire à quel point ils ont été libérés, émancipés par un prof de français. Souvent, c'est le prof de français. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vrai, cette histoire? Parce que vraiment, quand moi, je suis dans l'immigration, je vis dans l'immigration, je milite dans l'immigration. Je veux dire, j'ai pas rencontré ça, en fait. Des profs comme ça qui viennent sur leur cheval blanc pour sauver les élèves des quartiers populaires, pour sauver les enfants des banlieues. Ça, moi, j'en ai jamais, jamais rencontré, en fait. Moi, ce que j'ai pu rencontrer, ce que j'ai pu analyser aussi, c'est une institution scolaire qui est sans pitié avec les enfants de l'immigration, sans pitié. Tu n'as pas le droit de bouger un orteil en classe. T'es assis, assise pendant 8 heures, tu dois demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Je veux dire,
mais c'est dans le livre aussi.
Ton sort est réglé. Pardon ?
C'est quelque part dans le livre, aussi dans ce chapitre que vous avez commencé à lire.
C'est quelque part dans nos vies, en fait. C'est-à-dire que si on devait généraliser, en réalité, le prof de français, c'est pas une bonne nouvelle dans notre vie. Et quand il nous tend un livre pour nous dire « Tiens, émancipe-toi », libère-toi. En réalité, ce livre, c'est le prolongement de lui-même, de sa culture, qui est pour les enfants d'immigrés une culture qui est dominante. Et donc, moi, j'ai voulu casser ce truc-là. Donc, dans Rue du Passage, il n'y a pas de prof de français qui sauve qui que ce soit. L'assistante sociale, elle est là. C'est un démon, pour dire les choses littéralement. C'est un spectre. En réalité, il n'y a même pas de blanc dans le livre. Les seuls blancs qu'il y a dans le livre, ça, j'assume de le dire, hein, ce sont des acteurs institutionnels ultra froids, pas sympas du tout. J'ai vraiment voulu les mettre à distance et j'ai voulu vraiment réserver l'amour, l'amitié, la solidarité, même les tensions, les injonctions, etc. J'ai vraiment voulu les réserver au quartier, en fait. De tout ce qui se passe de bien et de beau et de solidaire, c'est dans le quartier. Vraiment pour casser ça, en fait. On a été sauvés par personne. Si on a pu s'émanciper, c'est uniquement, et vraiment j'insiste là-dessus, uniquement grâce au travail communautaire. Au travail. Le passeur de cassettes, le père ouvrier, la mère au foyer, comme on dit, la cafetanière, le Père Noël à l'usine qui est membre de la CGT, du Parti communiste. Enfin voilà, c'est ce
qui fait partie de la famille aussi.
Pardon ?
Enfin, qui fait partie de la
famille. Qui fait partie du quartier, voilà. En fait. Ouais. Donc c'est grâce à ces gens-là et certainement pas grâce à ce prof de français, même si j'entends que Gisèle Halimi, elle, a pu avoir cette vie et, et ce sauvetage, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, je voulais pas que ce soit dans mon récit d'immigration.
Vous êtes née en Tunisie.
Je suis née à Carthage,
et d'une famille plutôt
pauvre.
Modeste.
Plutôt modeste.
Oui. Et tunisienne
D'origine, madame. Est-ce que...
Ah non, mais d'origine française, italienne...
Tunisienne.
Tunisienne.
Est-ce que je puis vous demander en quoi cette question a de l'importance ? Est-ce que si j'étais vraiment tunisienne, je n'aurais pas le droit de vous parler des femmes aujourd'hui ?
Ah, ça n'est pas ça du tout.
Je suis née tunisienne,
mais en fait,
mon
c'est une
père
précision que je voulais avoir.
Oui, bien, je la donne très volontiers. Mon père s'est fait naturaliser français avec ma mère. Mon père était un grand admirateur... de la France, et il s'est fait naturaliser quand j'avais, je crois, 4-5 ans, et dans ce cas-là, le décret de naturalisation englobe l'épouse et les enfants mineurs, donc mon frère aîné et moi-même.
Madame Morin,
je suis devenue française.
Auriez-vous préféré rester tunisienne au cas où vous y ayez eu le libre choix ?
Probablement.
Je crois.
Probablement, parce que j'ai été très intégrée à la lutte de ce pays, encore qu'elle était relativement courte. C'est plutôt dans la bataille d'Algérie que j'ai pris la plus grande part. Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque 8 ans de ma vie à la cause de l'indépendance algérienne. Là, je n'ai pas eu le choix. Cela dit, il faut quand même dire que je suis profondément... de culture française.
Mais de culture.
Absolument, je veux dire, je n'ai pas appris, je parle l'arabe, mais je l'ai appris dans les rues.
Mais de
donc, cœur, je ne sais pas
vous
l'écrire.
Êtes plutôt africaine.
De cœur, je suis aussi française.
Oui,
maintenant,
oui,
la culture française, si vous voulez, j'ai eu un petit compte, si j'ose dire, à régler avec elle, parce que j'avais une telle admiration pour... la France et tout ce qu'on y apprend. Toute la France, pour moi, c'était ce que j'apprenais à l'école,
oui.
À l'école colonisée. Par conséquent, ça ne pouvait
nos être
que
sont
le Noël blanc et puis le Noël neigeux que je n'avais jamais vu de neige de ma vie. Et puis, c'était la patrie des droits de l'homme, l'égalité, la justice. Et puis, je me suis trouvée brusquement, parce que j'étais encore très jeune quand même, j'étais là dans les facultés de droit en particulier où on m'a fait honte de mes origines. J'ai appris que le racisme existait alors que je pensais que ça pouvait exister en Tunisie même, parce que là, il y a les mauvais Français, les colons. Or, en arrivant en France, les Français aussi l'ont été.
Oui, ça coupe un peu brutalement parce qu'après ça s'enchaîne sur un autre sujet. Donc c'était un extrait de Gisèle Halimi dans une émission où elle est interrogée sur son soutien à l'indépendance de l'Algérie. Un mot sur cet extrait?
Oui, non, c'est un extrait vraiment, vraiment drôle dans ce que peuvent dire les autres femmes qui sont sur le plateau, ce qu'elles répondent et le mépris, la condescendance qu'elles peuvent avoir pour Gisèle Halimi. Et c'est en même temps vraiment... réjouissant parce que dans la manière dont Gisèle Halimi leur répond, en fait, avec intelligence et cette forme de fierté aussi que je lui reconnais, en fait, à Gisèle Halimi, vraiment fierté du combat qu'elle a mené, qu'elle a participé à mener avec ses camarades en Algérie notamment pour libérer le pays de la colonisation. De la férocité coloniale. Et oui, je trouve ça intéressant aussi ce qu'elle dit sur son ambivalence, en fait, concernant la patrie française, la nation française, la patrie des droits de l'homme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Ambivalence parce que d'un côté, oui, je comprends bien que depuis l'autre côté de la Méditerranée, il peut y avoir une admiration, en fait, que moi, je n'ai pas connue, puisque moi, j'ai grandi en France, hein, moi, je n'ai pas grandi en Afrique. Mais ça, je peux le comprendre, en fait, parce que dans ma famille, il y en a qui ont grandi au Maroc, notamment en Algérie, et donc qui ont grandi avec cette idée que de l'autre côté de la Méditerranée, c'était incroyable, c'était, oui, les lumières, quoi. Et en même temps, être confronté au racisme, être confronté... justement à la colonisation, être confrontée, elle le raconte quand elle arrive justement de ce côté de la Méditerranée à la fac et qu'elle voit bien comment elle est traitée, non pas comme une française lambda, mais bien comme une indigène, en fait. Ça rejoint ma propre expérience, en fait, c'est-à-dire que moi-même j'ai grandi dans un quartier populaire et plutôt bien de manière moi j'ai eu une super enfance et tout allait bien, j'ai pas vu le racisme, en fait, comme d'ailleurs la plupart des enfants ne voient pas le racisme dans leur quotidien. Aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille vraiment... les Rifaines, on a cette réputation d'être très très fiers de ce que nous sommes, en fait, de notre langue, de notre religion, etc. Et alors, arrivé à la fac, comme un peu Gisèle Halimi, moi c'était Sciences Po à Lille, là, patatras, quoi. On se rend compte de... Vraiment, on se le prend en pleine gueule. Et je trouve ça intéressant dans ce qu'elle raconte à ce propos, Gisèle Halimi. Cette ambivalence, elle est... Et oui, puis c'est aussi un peu ce que je disais tout à l'heure. Je savais pas que vous alliez passer cet extrait-là aussi. C'est aussi cette intersectionnalité, vraiment là pour parler plus politique, cette facilité qu'a Gisèle Halimi de manier et le féminisme et l'anticolonialisme et l'antiracisme. Ça, je trouve que vraiment il y a quelque chose là de vraiment très précurseur, en fait, et qui parle beaucoup aujourd'hui. À un moment où je trouve on n'est pas encore sorti de cette incapacité à concilier les deux, à articuler les deux. Féminisme et antiracisme, elle se baladait, quoi, en fait, dans ses combats, et ça paraissait à l'entendre, à l'écouter, vraiment simple. On se dit, mais c'est tellement facile de mener de front et un combat antiraciste et anticolonialiste et un combat féministe.
Ouais. Ouais, même quand elle raconte sa relation au chef d'État, par moments, c'est vrai que ça paraît... Ouais, plutôt simple, alors que c'est d'une complicité.
Dans son rapport, extrême. Parce que alors là, on a parlé de son rapport à l'Algérie française, et elle a choisi le camp de l'émancipation, la libération, mais aussi le choix qu'elle a fait de la Palestine et du soutien à la libération de la Palestine et dans une cohérence anticolonialiste. Elle est anticolonialiste et donc. Elle soutient la libération de la Palestine. Ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui, évidemment, à l'heure d'un génocide en cours à Gaza et à l'heure d'ambiguïté parfois dans le milieu féministe en France pour ce qui concerne la cause palestinienne. Voilà, là aussi, un exemple, en fait, de cohérence politique et pour moi, d'horizon à suivre. Quoi. Gisèle Halimi, en l'occurrence, c'est vraiment une ligne pour moi, une boussole.
S'achète liberté. a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté.
C'était Soulkin, Liberté. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, nous, ça nous fait pas peur. J'écoutais un extrait du podcast Kif Taras avec Rim Hassan, donc juriste franco-palestinienne et candidate à la France insoumise aux élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Elle dit « C'est ça la fracture qui est la nôtre, réfugiés palestiniens. Chez nous, c'est un camp. Pour rentrer, il a fallu que j'accepte l'idée que pour moi, rentrer quelque part, c'est pas rentrer dans un pays, c'est rentrer dans un camp. Et le camp, c'est le reflet de cette dépossession, c'est le reflet de cette injustice. Donc ça supposait aussi pour moi d'accepter que chez moi, il y a quelque chose qui vient arracher notre dignité quand on regarde ça en face, mais c'était d'accepter que chez moi, c'est nulle part. » Et c'est très ancré, j'ai l'impression, ce nulle part pour ceux qui ne viennent ni d'ici ni d'un là-bas, si je peux dire comme ça.
Oui, il y a vraiment une condition commune là dans ce que raconte Rima, ce à quoi vous faites référence, et puis la condition telle que moi je l'analyse des descendants de l'immigration africaine qui vivent en France, moi je les qualifie de sans terre. Et c'est effectivement n'être ni d'ici ni de là-bas. C'est en être victime. C'est-à-dire que c'est pas tombé du ciel hein, cette histoire de sans terre. C'est tout un processus de désancrage. C'est comment on répète aux descendants de cette immigration, qui sont plus immigrés, je veux dire, ça fait plusieurs générations maintenant que la plupart des personnes non blanches qui vivent en Europe sont nées en Europe. Parfois même leurs parents sont nés en Europe. Et pourtant, on continue à les considérer comme des immigrés. Bon. Et on leur répète qu'ils ne sont pas d'ici. Cette terre n'est pas la leur. Voilà. Et d'ailleurs, on s'interroge sur le fait que peut-être il faudrait qu'ils partent. Parce qu'il y a un risque de grand remplacement. Vous parliez des élections européennes. En France, la première force politique, c'est l'extrême droite. Mais loin, loin, loin devant tout le monde. L'extrême droite, c'est elle qui répète que les populations non blanches et musulmanes ne sont pas chez elles en Europe. Donc il y a tout ce processus de désancrage, et oui, c'est dire l'importance de l'ancrage territorial dans mon travail, dans mes projections, dans mes horizons, dans le projet politique que je peux proposer. Il y a vraiment cette idée-là de, voilà, il faut peut-être poser ses valises. Alors dans Rue du Passage, il y a l'importance. Alors d'ailleurs, le titre, c'est en fait une terre, c'est une rue, c'est un territoire. Donc, et c'était important pour moi que ça apparaisse dès le titre, en fait, l'importance du territoire, l'importance d'être de quelque part, d'être chez soi, là où grandissent les enfants, ses enfants et ses petits-enfants. Ça, c'est une chose. Alors, dans la chanson de Soulkin, il y a autre chose qui, pour moi, est aussi important dans l'immigration, dans nos aspirations, nos horizons, c'est la liberté. Et ça, c'est vrai que dans cette chanson, en fait, c'est tellement... C'est tellement bien fait. C'est vraiment une de mes chansons préférées parce que, en plus, il y a tout l'humour en fait qui peut exister chez les Nord-Africains. Alors, Soulkin parle de. Alors déjà, Soulkin, le nom, en fait, c'est un personnage de One Piece. Et il se trouve que, voilà, moi, c'est un manga que j'aime beaucoup, comme lui. Et comme beaucoup de gens qui vivent dans les quartiers populaires. Et alors, à un moment donné, il parle de... il dit « Excuse-moi d'exister. Excuse mes sentiments. » Et ça, c'est vraiment une manière de dire, mais... On exige d'exister, on exige d'être libre, mais avec humour, quoi. Et donc, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en Algérie. En fait, des gens qui disent à l'État algérien, parce que là, en l'occurrence, c'est de l'étouffement, de l'asphyxie, dont sont responsables les autorités, les pays, les États arabes, en fait, les États, notamment les régimes arabes du Maghreb, pour dire, mais voilà, excuse-moi d'exister, quoi. On sait que vous avez la gâchette facile, d'ailleurs, à chaque fois qu'on a cette revendication, cette soif de liberté, mais on exige de vivre et de vivre libre. Et ça vraiment, il y a dans cette chanson, voilà, toute l'aspiration, la soif de liberté, dit avec nos mots, ces mots-là, en fait, donc de l'ironie, de l'humour. Et aussi, alors, cette soif de liberté aussi, pour dire que si on aspire autant à la liberté, notamment à la liberté de circuler, c'est parce qu'on en est privé. Et que pour moi, alors je parlais des sans-terres, et l'autre condition pour moi qui fait commun entre les Arabes, on va dire, mais vraiment du monde entier, hein, c'est que tout est fait pour qu'on ne soit pas libre. Voilà, c'est la peur panique, c'est que les Arabes soient libres un jour, qu'ils puissent se libérer. Et voilà, c'est une belle chanson. Tout ça pour dire que c'est une belle chanson.
Le livre est disponible en librairie et en ligne. Votre lutte continue. Elle continue d'abord pour vos enfants, parce qu'il y a cette idée aussi de la transmission avant tout. Et en amont de l'émission, vous aviez aussi cité ce film animé « Azur et Asmar » qui a été réalisé par Michel Oslo. C'est d'une poésie assez belle. Il est sorti en 2006. Vous me disiez que vous regardiez souvent avec vos enfants et vous-même. Donc c'est un film sur les inégalités sociales. Et est-ce que la fraternité aussi est au-delà des liens du sang, des apparences et des légendes? Un dernier mot, Fatima Ouassak?
Oui, parce que alors dans Rue du Passage, il y a effectivement le rapport de la communauté, plutôt des adultes aux enfants. Et j'essaie de dire comment Salima s'émancipe, en fait, grâce à cette communauté d'adultes, on va dire, ses passeurs et passeuses. Mais il y a aussi la camaraderie et le jeu entre enfants, en fait, et la solidarité et la communauté des enfants. Et il y a ça, dans Azur et Asmar. Alors, dans Azur et Asmar, c'est assez formel, c'est une beauté très, très formelle, en fait. Il y a une certaine esthétique assez classique, on va dire. Et dans Rue du Passage, j'ai voulu faire autre chose, en fait. Dans ce que je raconte, moi, à mes enfants, il y a souvent cet humour dont... Enfin, j'espère que c'est marrant. En tout cas, pour mes enfants, c'est marrant. dont je parlais avec Soul King. C'est vraiment c'est comment on résiste aussi par l'humour, en fait, par l'ironie, par la dérision, l'autodérision. Ouais. Mais il y a Azur et Asmar, ça, c'est sûr que c'est quelque chose... C'est un film que j'adore regarder parce que il y a l'humour nécessaire, la joie nécessaire et la beauté aussi. C'est un film particulièrement beau qui met en avant une esthétique, en fait, plutôt orientale. Alors, c'est plutôt mille et une nuits, c'est vrai, mais on prend, quoi. Et ça fait toujours plaisir de transmettre ça à ses enfants, quoi, de leur donner à voir, en fait, une beauté de la langue arabe, de l'islam, les épices, parce qu'elles sont là, les épices, dans Azur et Asmar. Il y a un tout petit clin d'œil, mais vraiment, il n'y a que mes enfants qui peuvent comprendre, dans Rue du Passage, avec le lion écarlate et l'oiseau, en fait, donc qui sont présents dans Rue du Passage, mais qui sont aussi présents dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a un oiseau majestueux au départ, et c'est tout un conte au départ, et il y a un lion qui, je peux spoiler un petit peu, qui finit par bouffer le chasseur. Et c'est bien parce que c'est un peu l'idée que le lion, la communauté, bouffe la nation. Voilà, je laisse les auditeurs découvrir
voilà.
Tout ça.
C'est vrai que cette phrase était « Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire des chasseurs. »
Absolument. Voilà. Là, c'est un peu l'inverse, hein, dans le livre.
Voilà. Merci Fatima Ouassak.
Merci à vous
d'avoir été là avec nous au micro de la matinale. La programmation du mois de juin sera annoncée très prochainement. L'émission sera disponible à l'écoute jeudi prochain. Les autres épisodes sont sur duradio.fr. Merci à la technique Samson Staples et merci de nous avoir suivis. À très vite sur Dieu Radio.
La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.